Les plus beaux recrutements, pour moi, se font rarement sur LinkedIn. Ils se font dans plein d'autres occasions.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Sylvia Di Pasquale, journaliste spécialiste des questions d'emploi et je vous souhaite la bienvenue dans ce troisième épisode de Secrets de recruteurs, produit par Figaro Recruteurs. Alors Secrets de recruteurs, c'est un podcast d'entretien qui donne la parole à ceux qui font le recrutement. Et pour ce troisième épisode, eh bien, nous sommes en ligne avec Benjamin Jean. Il est recruteur de recruteurs. Et il travaille essentiellement pour des startups. Alors, il a travaillé en cabinet de recrutement. Aujourd'hui, il est indépendant. Il est aussi le co-créateur de Recruiters Kitchen. Il va nous en parler. C'est une communauté de 2000 recruteurs qui échangent sur leurs techniques et qui rigolent aussi beaucoup entre eux. Et c'est Guillaume Saint-Agne, le premier invité de cette série, qui est le directeur du recrutement de Miracle, qui m'a parlé de Benjamin Jean. Alors, peut-être que Benjamin va accepter de nous livrer quelques secrets. C'est parti. Salut Benjamin.
Salut Sylvia.
Alors on enregistre à distance parce que moi je suis à Paris et vous êtes où exactement?
Bah, du coup moi je suis à Coruña. Donc Coruña c'est un petit peu on va dire la capitale économique de la Galice. Donc c'est le
D'accord.
nord-ouest de l'Espagne. Je vis et je bosse là-bas.
Il y a plein de choses que j'ai pas dit au cours de la présentation et notamment il y a une chose que je tiens à préciser, c'est que vous êtes fan de la série Suits et vous avez fait du droit. Et par contre, vous n'avez pas choisi de continuer dans le droit. En revanche, je me suis
Pas
quand
du
même
tout.
demandé si ce n'était pas Harvey Specter et Mike Ross qui vous en ont dégoûté. Alors dites-nous tout.
Non, non, c'était justement l'inverse, c'était mes modèles. Et je me suis rendu compte que pour arriver à leur niveau, il a fallu choisir un petit peu plus sérieux à l'école.
C'est
Et que
parce que
du
le
coup, voilà.
recrutement, c'est plus facile que le droit que vous faites du recrutement aujourd'hui?
On va dire plus ou moins, plus ou moins. Oui. Ça a été une bonne porte, en tout cas, oui, c'était une bonne porte d'entrée. Oui.
Bon, j'arrête de vous chambrer. Vous êtes recruteur, enfin vous exercez un drôle de métier qui est celui de recruteur de recruteurs, et c'est pour ça que ça nous a intéressés. Vous bossez essentiellement pour des startups et des scale-up, donc des grosses startups, on va dire. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette niche en particulier?
Alors, ça a été beaucoup un concours de circonstances. Quand moi j'ai fait du recrutement dans ma précédente expérience en cabine donc chez Edgar, j'ai passé donc plus de 3 ans. Au bout de 3 ans, j'avais fait un petit peu le tour de ce que je pouvais faire. J'avais un peu goûté au management et sincèrement, c'est pas ce qui m'a éclaté le plus. Et donc là, finalement, il y a plus beaucoup de portes qui s'ouvrent à moi. Donc en fait, l'une des premières, c'était donc de partir.
Ouais.
Et moi, j'avais toujours voulu être mon propre patron. Et donc, du coup, je veux dire freelance. Après, freelance. Donc, du coup, plutôt en recrutement parce que c'est ce que je savais faire. Mais après, du coup, je me suis dit, essaie de te différencier un petit peu de
Ouais.
tous les autres recruteurs freelance. Essaie de trouver une niche. Et déjà à l'époque, donc il y a 3 ans, je commençais à avoir des clients qui me demandaient de chercher des recruteurs. Et j'avais déjà senti que c'était un petit peu difficile et que le marché allait rapidement se tendre.
On
On
était en
était
quelle
du
année?
coup. Mi-2018.
Après 4 ans de
Tout à
cabinet.
fait.
4 ans de cabinet, et donc là, ça fait 3 ans que vous êtes indépendant.
Je vais fêter mes 3 ans là, bah, à l'instant, on va dire.
C'est quoi la spécificité du recrutement de recruteurs? C'est particulier par rapport à un comptable, par rapport à un profil digital?
Je pense que déjà, la question à se poser, peut-être, c'est qu'est-ce qu'on attend de ce recruteur? C'est-à-dire que ce n'est pas la même chose aujourd'hui de chercher un recruteur qui, par exemple, va être dans une entreprise qui a une marque employeur très forte, c'est-à-dire du coup une entreprise qui va recevoir par exemple beaucoup de CV, et où du coup le recruteur est plus une personne qui va avoir la chance en fait de traiter beaucoup de candidatures et d'avoir à faire peut-être plus ou moins peu de sourcing, d'approche directe, même si tout cela dépend aussi bien sûr de la difficulté des profils. Même quand on travaille chez Facebook, c'est difficile de trouver des profils techniques et il faut faire de l'approche directe. Mais on a quand même une marque quand même qui est beaucoup plus forte hein, et qui aide considérablement. Et
Ouais.
du coup, c'est pas la même chose quand effectivement on est une entreprise complètement inconnue et où du coup là, ça peut être peut-être plus intéressant d'aller chercher un recruteur qui a déjà une expertise en approche directe, qui n'a pas peur d'aller approcher beaucoup de candidats.
Restons quand même sur les profils de recruteurs en start-up et en scale-up. Je me pose quand même la question de savoir s'il faut des profils de recruteurs particuliers, y compris, vous commencez à le dire, sont des gens qui savent davantage vendre une entreprise. Donc c'est davantage des profils de commerciaux, davantage des profils de business partner, davantage des profils de, je sais pas, de développeurs de portefeuille.
C'est clair qu'on attend de plus en plus des recruteurs qu'ils soient multicasquettes. On avait un peu dans l'inconscient l'image d'un recruteur qui était RH, qui a fait de la
Ouais.
psychologie ou de la sociologie.
Ouais.
Ce profil-là, pour être très transparent, je le croise de moins en moins. Et c'est d'ailleurs pas forcément ceux que je recrute en startup et en scale-up. Par contre, le recruteur aujourd'hui, il a plus un profil qui a différentes casquettes. Donc, une casquette, effectivement, de commercial. Commercial dans le sens que c'est une personne qui aujourd'hui écoute, qui a une empathie, qui pose des questions ouvertes. Donc, oui, la casquette commerciale est effectivement forte. La casquette marketing aussi. Vous pouvez aussi acheter une casquette en gestion de projet parce que finalement, un recrutement, c'est quoi? C'est un projet. C'est-à-dire que vous avez un cahier des charges à définir en amont avec une personne qui est souvent votre opérationnel, votre hiring manager. Et après, votre recrutement, c'est un projet dans le sens qu'il a différentes étapes. Il a une phase où vous devez faire une phase d'identification, trouver des candidats. Vous avez une phase où vous appelez des candidats. Vous avez une phase où vous menez des entretiens. Vous avez une phase où vous faites une offre à un candidat. Donc, ces compétences, un peu être capable de se dire qu'un recrutement, c'est un projet et que du coup, il faut le timer dans le temps et respecter différentes étapes avec différents interlocuteurs. Donc, c'est vrai que le recruteur aujourd'hui peut avoir finalement de nombreuses casquettes. Je vous rassure, tous les recruteurs dont ne coche pas malheureusement pas toutes ces casquettes-là, mais certains, effectivement, bah, par exemple, plus une appétence commerciale, plus une appétence marketing, plus une appétence en gestion de projet. Et toutes ces personnes-là font finalement des bons recruteurs.
Alors, on va se parler vraiment, pour de vrai. On parle de profil pénurique. On nous dit, je veux bien croire, je regardais ce matin sur Cadre Emploi, on a 4 900 offres d'emploi pour des hiring managers, talent sourceurs, talent acquisition, responsable de recrutement, chargé de recherche.
Wow, c'est
Donc,
beaucoup.
c'est énorme et ça augmente. On sait que ça recrute, tous les cabinets de recrutement recrutent comme des fous en ce moment. Est-ce que vraiment, vous trouvez, vous, que tous les profils sont pénuriques? Ou alors, est-ce qu'il y en a justement certains, hein, peut-être, je ne sais pas, les chargés de recherche, ça va, il y a le marché, il y a ce qu'il faut.
Je pense que comme toujours, ceux qui sont le plus recherchés, c'est les meilleurs. Donc aujourd'hui, les très bons recruteurs, malheureusement, il n'y en a pas suffisamment. Mais il n'y en a pas suffisamment pour en fait beaucoup de raisons. C'est qu'il y a eu un manque de formation évident. Il n'y a pas de formation pour devenir recruteur. Il y en a eu qui se sont développés les dernières années, mais c'est effectivement aujourd'hui une minorité. Donc il y a un vrai problème de formation. Et il y a un marché qui s'est complètement accéléré. Vous avez par exemple les startups et les scale-up qui sont mises depuis 2-3 dernières années, qui sont mises du coup de plus en plus à lever de l'argent, sans avoir derrière les recruteurs qui ont augmenté. Donc c'est vrai qu'il y a finalement, voilà, il y a beaucoup de critères qui font qu'aujourd'hui, le marché, on peut le considérer comme en effet pénurique. Oui.
D'accord. Qu'est-ce qu'il faut promettre à un recruteur pour qu'il quitte son poste aujourd'hui? Quels sont vos arguments qui marchent le mieux?
Ce que moi j'aime beaucoup mettre en avant aujourd'hui, c'est le télétravail. Un des arguments moi que j'aime
Télétravail?
bien mettre en avant,
Ah ouais?
c'est peut-être pas l'argument qui va parler à tous les recruteurs, mais aujourd'hui c'est un argument qui parle quand même à beaucoup de recruteurs. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est clairement un métier qu'on peut exercer hein, depuis un peu n'importe où. Il suffit d'avoir une bonne connexion Internet, un ordinateur et un téléphone. Et c'est vrai que je vois pas trop l'intérêt de pousser un recruteur à aller au bureau, alors qu'en fait il pourrait le faire dans des bonnes conditions chez lui. On a un métier où on passe quand même beaucoup d'appels. Moi, je me souviens d'avoir travaillé dans des bureaux en open space où c'est hyper inconfortable de passer un appel parce qu'on entoure ses collègues qui, entre-temps, font des blagues, rigolent, tout ça. Et donc déjà, c'est inconfortable pour soi, mais c'est aussi inconfortable pour les candidats qui sont au téléphone avec vous. Le télétravail, je trouve que c'est un bon argument. La rémunération, ça en est un aussi. Une entreprise forcément en croissance où il y a à recruter et on ne va pas effectivement juste faire un poste par mois, c'est un argument. Le mettre en place des process de recrutement, c'est un argument aussi. C'est sûr qu'arriver dans une structure où la fonction recrutement est déjà bien établie, où il y a déjà un ATS, donc un outil qui permet de recevoir les candidatures et de les traiter. Bon, voilà, où tout est un peu déjà mis en place, c'est sûr que ça peut être un peu moins stimulant qu'arriver dans une petite entreprise où il n'y a pas encore grand-chose à faire et qu'il faut tout construire avec les fondateurs.
D'accord. Donc le fait de ne pas être un exécutant, le fait de qu'on puisse aussi leur confier des projets
Bien
qui
sûr.
stimulent certains recruteurs, par exemple comme, je ne sais pas moi, le fait de faire entrer plus de femmes, plus de diversité, plus de nationalités différentes, plus
Évidemment.
etc. Ça peut être un argument ça, ou alors c'est sur le papier, c'est chouette, mais en fait tout le monde s'en fout.
Alors, c'est clairement un argument au point où aujourd'hui, moi, je n'accompagne que des entreprises qui proposent au moins entre 20 et 30% dans le temps de travail du recruteur des projets.
Ah bon?
Sur ça, je l'ai choisi aussi sur le télétravail. Donc, un
D'accord.
client qui aujourd'hui me dirait qu'il ne fait qu'un jour de télétravail par semaine, à part très très grande exception, je refuse.
Le gros du travail, c'est le téléphone. Vous en faites beaucoup, vous, effectivement. Et après, la rencontre avec le candidat, vous n'avez pas besoin de les rencontrer physiquement. Vous n'avez pas envie de les rencontrer physiquement.
Non. Sincèrement, depuis 3 ans, je le fais 100% en digital. Ça m'a pas fait faire des erreurs de recrutement.
Et votre client, vos clients, ils sont comme ça aussi, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas spécialement rencontrer les candidats en présentiel?
Le Covid a changé les choses. C'est-à-dire que avant le Covid, tous mes clients rencontraient tous les candidats physiquement de la première étape à la dernière étape du processus de recrutement. Aujourd'hui, et moi, je faisais donc mon filtre avant en vidéo. Là maintenant, post du coup Covid, j'ai effectivement des clients qui sont passés en full télétravail, donc du coup qui font tout le processus de recrutement en vidéo.
Vous en avez beaucoup?
Et j'ai certains, je pense que la moitié aujourd'hui.
50% de vos
À
clients sont
50%,
en
ouais, 50% des clients.
full télétravail, full remote.
Ou en tout cas, ont adapté leur processus de recrutement pour qu'ils soient en full télétravail.
D'accord. Juste un truc que j'ai relevé dans une de vos interviews, vous dites que souvent, il y a beaucoup de recruteurs qui le deviennent par hasard. C'est vrai ça?
Franchement, oui. Oui,
Et dans
oui.
les candidats que vous
Ben, en
sélectionnez
fait.
aussi, c'est des gens qui sont devenus recruteurs par hasard ou qui veulent faire recruteur
Ben.
Vous prenez des
Ouais,
reconversions?
ben. En fait, non, ce n'est pas forcément des reconversions parce que par contre, je pense que les gens démarrent assez tôt dans le recrutement. C'est souvent d'ailleurs un premier job. Par contre, oui, ce qui se passe, c'est que ben justement, comme on revient sur le point de tout à l'heure, qui est qu'en fait, il n'y a pas d'école pour former au recrutement,
Ouais.
beaucoup de personnes en fait ignorent que le métier de recruteur existe. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui le découvrent et qui disent en fait, ouais, c'est super intéressant parce que ça permet
Ouais.
de développer beaucoup de compétences, d'être en contact avec des candidats, d'en savoir plus sur. Si on est un peu curieux, moi, j'ai commencé dans le recrutement en parlant à des directeurs de chantier sur. Des grands chantiers français. Donc, c'est hyper intéressant que si on est un peu curieux, on pose des questions. Ah, bah tiens, comment avance le chantier? C'est quoi les challenges de votre chantier? Je sais pas, si on est un peu curieux, on se régale quand même pas mal dans ce métier.
Pour faire un parallèle avec la série Suits dont on parlait tout à l'heure, quel ADN aurait le Harvey Specter du recrutement? L'as des as, quoi, le cador, le meilleur des recruteurs.
Ben, en fait, ce qui fait qu'Harvey Specter est en tout cas dans la série, un grand avocat d'affaires, c'est que c'est un closer, donc une personne qui amène un deal jusqu'au bout. Donc, pour un recruteur, ça va être effectivement la même chose. C'est un recruteur qui aurait le type Harvey Specter, ça serait le recruteur qui va effectivement comprendre vraiment les attentes de son candidat dès le premier échange téléphonique et pendant tout le processus de le recrutement va au fur et à mesure le closer pour arriver effectivement au niveau de l'offre où en fait le candidat dira oui je vous rejoins. Il n'y aura aucune hésitation finalement de la part du candidat.
Donc un closer, enfin, il y a quand même une dimension dans le recrutement, et même chez Harvey Specter, il aime résoudre un problème pour son client, quoi. Il aime apporter des solutions, même pourries, enfin je veux dire, même pas forcément très légales hein, chez Specter. Et le recruteur, il doit être un peu comme ça, non? Un peu système D, je vais vous trouver le mec ou le mec ou la nana que vous réussissez pas à trouver depuis des années, je vais
Ouais.
vous le trouver moi. Enfin, il y a un truc comme ça, non?
Moi, j'aimais bien au début dire que j'étais un peu comme Inspecteur Gadget. Donc là, on change complètement de référence. On est plus chez Harvey Specter, mais oui, le MacGyver ou le détective privé, ce qu'on veut finalement. Mais faut être un peu malin, ouais. Faut sortir un peu des sentiers battus. Les plus beaux recrutements, pour moi, se font rarement sur LinkedIn. Ils se font dans plein d'autres occasions.
C'est-à-dire des
Vous avez plein
dîners,
d'exemples.
dites-nous vos
En
secrets.
fait, j'avais échangé avec un recruteur, un anglais, donc il faut avoir en tête que du coup, il a une manière d'approcher le métier un peu différente de la nôtre. Mais ce qu'il disait, c'est qu'en fait, un recruteur, c'est une personne qui recrute tout le temps. Il n'y a aucun mauvais moment pour recruter. Vous pourrez être amené effectivement à recruter le matin même dans le métro en train de parler avec une personne, comme effectivement, vous êtes assis à table le midi et derrière vous, vous entendez une conversation avec une personne qui commence à se poser des questions sur un lien professionnel. Ben vous rebondissez. Ah ben tiens, j'ai entrevu votre discussion. Je sais que vous êtes en train de manger, je ne vais pas vous déranger très longtemps, mais juste pour la information, moi je suis recruteur. Si je peux vous accompagner dans votre démarche, ce sera avec grand plaisir.
Ah
Je
ouais.
pense qu'il faut avoir cet esprit un petit peu.
Opportuniste.
C'est clair, il faut ouvrir des portes en fait. C'est un métier où il faut ouvrir des portes, il ne faut pas
Ouais.
s'enfermer.
Est-ce que vous avez un
Voilà.
conseil à donner à des recruteurs qui seraient chassés par vous? Est-ce que, y a une attitude que vous n'aimez pas du tout, que vous déconseillez?
Non, j'ai pas forcément d'attitudes qui sont rédhibitoires.
Il n'y a pas un
Ce que
défaut que vous
moi je
détestez vraiment?
conseille, non, il n'y a pas forcément de défaut que je déteste. Non, ce que effectivement j'attends quand même pas mal des recruteurs avec qui j'échange en entretien, c'est qu'ils essayent d'être quand même relativement structurés, synthétiques. Voilà, quand je pose une question, j'aime bien que la personne prenne son temps pour y répondre et me donne du coup une réponse, voilà, qui a un bon niveau de détail et parte pas dans tous les sens, ne soit pas trop brouillon. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel je fais assez attention. Ce qui pourrait être rédhibitoire, oui, c'est aujourd'hui un recruteur qui me dit, après 4-5 ans d'expérience, bon, écoutez, c'est vrai que moi, j'ai tout fait aujourd'hui, j'ai fait le tour du métier. Je serais un peu embêté. Alors après, il peut peut-être me le prouver par A plus B et je serais peut-être content de l'entendre. Mais la plupart du temps, quand une personne me dit ça, c'est rarement le cas. Il a encore beaucoup de choses à apprendre.
J'avais envie de reparler de Recruiters Kitchen avec vous. Je plaisantais un peu tout à l'heure en disant que c'était une communauté, mais quand même 2000 recruteurs, c'est énorme. Vous avez constitué ça en quoi? 5-6 ans, c'est ça?
Ouais, tout à fait, 5-6 ans. Et pour vous dire, je pense que les chiffres, faudrait que je les actualise. Aujourd'hui, quand j'ouvre Slack, on est plutôt 3 700.
En deux mots, ça se
Oui.
passe sur Slack, c'est ça? On s'inscrit, donc il faut s'inscrire
Oui.
et être accepté.
Non,
Et
c'est pas
les
ouvert à
critères, c'est
tous. On a
quoi?
vraiment fait le choix de d'être recruteur ou RH. Mais effectivement, aujourd'hui, on a par exemple beaucoup de fondateurs de start-up qui veulent développer des outils RH ou recrutement, qui veulent rejoindre Recruiter Kitchen en se disant que du coup, ils auront potentiellement un
Bah, du
terreau
business à
d'utilisateurs quand même
faire,
assez
ouais.
génial. Et exactement, il y a du business à faire. Ça, c'est non.
Ouais. Et les
Ça,
cabinets,
c'est
vous les
non. On
prenez?
n'accepte
Du
pas
coup,
ces personnes-là.
les recruteurs de cabinet,
Oui.
vous les prenez? Ouais.
En tout cas, s'ils viennent avec la démarche effectivement de vouloir s'améliorer, avec grand plaisir.
D'accord. Il ne faut pas essayer de vendre sa maison, quoi.
Non, son pitch deck,
Ouais.
ça, non, non, ça passera pas. On fera souvent un rappel, le deuxième, on sort la personne.
D'accord. Donc vous chassez en fait grâce à cette communauté. Enfin, c'est votre vivier aussi ou comment ça se passe?
Ouais, non, j'essaie quand même de bien distinguer les deux. Recruiter Kitchen, en fait, on n'a jamais voulu le monétiser. On n'a jamais voulu en faire de l'argent. On veut vraiment que ça reste un espace plutôt convivial où tout le monde peut s'exprimer sans avoir à se dire, ah bah tiens, peut-être que ce que je dis, ça va être interprété comme ça, etc., etc. Donc, on veut vraiment que les gens soient libres. Après, c'est très clair que quand je vois des interventions de très grande qualité, bah, ça me donne envie d'interagir avec ces personnes-là.
Est-ce qu'il y a une entreprise que vous trouvez vraiment top en matière de recrutement, qui a mis en place une politique ou quelque chose de très innovant et que vous aimez beaucoup? Est-ce qu'il y a une boîte qui est un peu un modèle pour vous?
Oui, il y en a plusieurs. Je pense que elles ont toutes leurs forces. Vous avez forcément du coup parlé avec donc Guillaume de Miracle, mais sincèrement, je trouve que ce qu'ils ont fait sur les entretiens structurés, je trouve ça vraiment très bien. Donc après, ça en devient effectivement, voilà, c'est des entretiens qui sont durs, mais qui donnent en tout cas la chance à tous les candidats de manière équitable. Qu'un candidat sache se vendre ou pas, il aura la même chance. Et ça, je trouve ça très bien. Après, globalement, toutes les scale-up aujourd'hui françaises qui sont connues, comme elles ont des enjeux de recrutement volumiques, elles ont été obligées de vraiment penser leur fonction recrutement. Donc, c'est sûr
Ouais.
qu'aujourd'hui, des structures comme par exemple Doctolib font des choses très intéressantes en termes de recrutement. Alors, une entreprise qui n'est plus vraiment française, mais Datadog, qui est un éditeur de logiciels et qui est coté à New York, mais qui était à l'origine une entreprise française. Et effectivement, aussi une entreprise qui fait des choses très intéressantes côté recrutement. Donc voilà, il y en a quand même beaucoup.
Vous êtes un nomade, hein, parce que vous bossez en Espagne là aujourd'hui. Vous avez aussi bossé à New York, au Mexique aussi, j'ai entendu. Alors je voulais savoir qu'est-ce que ça apporte à votre métier? Est-ce que ça vous apporte quelque chose? Ou alors c'est complètement neutre de bosser de n'importe où?
Alors, moi, ça m'apporte personnellement, dans le sens que dans ces endroits-là, je me sens beaucoup plus stimulé et créatif. Je suis quelqu'un qui a tendance à mourir dans la routine.
Ah ouais.
Et du coup, avoir cette liberté de me dire, tiens, le mois prochain, pendant un mois, je suis en dehors de chez moi, ça me stimule énormément. Parce que je vais voir de nouvelles choses, soit de nouveaux bâtiments, je vais pouvoir rencontrer de nouvelles personnes, je vais manger différemment, je vais faire du sport avec des gens différents. Et ça, effectivement, ça me créer une stimulation qui est assez importante. Et en fait, en général, quand je pars voyager pour travailler, je vais dans des espaces de co-living et de co-working, ce qui fait que je partage ces espaces-là avec des gens qui peuvent travailler comme moi, donc soit qui sont salariés mais qui ont des politiques de remote très favorables, soit des entrepreneurs ou en tout cas freelance. Et du coup, c'est des gens que qui sont évidemment hyper stimulants. Non, ces gens-là m'aident à réfléchir.
Ouais. C'est le recrutement hors les murs, vous n'êtes jamais au même endroit, et qui est en fait aussi un symbole de cette profession qui doit être profondément agile et maligne, comme on disait tout à l'heure, pour réussir à trouver des candidats. Bon, enfin, c'est pas en Espagne que vous allez trouver des candidats pour la France, si. Par exemple, quand vous déjeunez le midi ou quand vous êtes en coworking ailleurs, vous ne pouvez pas repérer des candidats qui sont derrière vous.
À Coruña, peut-être pas, non, en
Ouais.
effet. C'est pas là où il y a en tout cas toute l'industrie tech espagnole. Mais si j'étais à Madrid ou à Barcelone, clairement que ce serait possible.
Ah oui, et en plus, si vous proposez des postes en remote, l'intérêt, c'est que du coup, ils pourront travailler de n'importe où pour une boîte française, espagnole, etc., quoi.
Le remote, c'est pas seulement. Vous savez, le remote, moi je suis un grand ayatollah du remote, c'est pas seulement se dire c'est cool, on peut travailler d'où on veut. Mais si on le prend dans le sens des entreprises, c'est aussi la possibilité pour ces entreprises-là d'avoir un talent pool qui est beaucoup plus grand. Aujourd'hui, à Paris, dans la tech, c'est devenu n'importe quoi, c'est la guerre, on s'arrache les candidats, c'est devenu très compliqué de recruter. Par contre, si on se dit, OK, en fait, aujourd'hui, on ne recrute plus qu'à Paris, mais on recrute dans toute la France, même dans un bled perdu en Creuse, et qu'on offre la possibilité aux salariés de travailler en Creuse, on s'ouvre un talent pool qui est énorme.
Ouais,
À
et
la
vous y
place de se battre
croyez?
sur 1000 candidats,
Ouais.
on se bat sur 10 000 candidats. Et j'y crois,
Et
oui, foncièrement.
là, la ministre du Travail a dit plus de télétravail obligatoire. Voilà. Donc du coup, il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises qui ont le réflexe de faire revenir leurs salariés au boulot. Donc ça va être la même chose pour tout le monde. Pour vous, c'est une catastrophe, ça.
C'est pas une catastrophe parce que je continue à travailler avec les startups et les scale-up. Et ces structures-là
Et
vont
elle,
pas
ouais.
suivre les recommandations de la ministre du Travail.
Alors, ne pas suivre les
Je suis
recommandations de la
rentré.
ministre, ça, j'entends bien, il y a des entreprises non plus, mais je veux dire, les entreprises qui font revenir les gens au bureau, parce que c'est pas au travail, c'est au bureau, elles estiment aussi que ça préserve leur collectif. Bon, c'est une thèse qui est défendue, hein, comme ça. Et donc, il y a certaines startups qui pensent ça aussi, c'est-à-dire qui préfèrent avoir les gens en présentiel. Par exemple, Guillaume Saint-Agne me disait qu'il allait faire revenir effectivement les gens au bureau pour reconstituer les équipes de travail.
C'est un gros sujet de débat avec Guillaume. Mais bref, non, je suis d'accord avec vous, c'est pas un point qui est
C'est pas
seulement
simple.
des grandes entreprises. Non,
Ouais.
non, c'est beaucoup, oui, c'est
Ça va
beaucoup
pas
plus
être simple pour
compliqué que
vous
ça a
parce que ça
l'air.
risque quand même de refermer votre vivier justement de recrutement.
Oui, c'est sûr, c'est sûr. Après, du coup, je deviens beaucoup plus vigilant, encore une fois, sur les entreprises que j'accompagne. C'est vrai que c'est des questions que je vais en poser sur, OK, quel est votre degré d'ouverture par rapport au remote? Et plus que ça, c'est quoi les outils ou les conditions de travail que vous avez mis en place pour favoriser le bonheur de vos salariés en remote? Parce que c'est bien beau, effectivement, de proposer 2 jours de télétravail par semaine, mais si à côté, on propose rien du tout,
Ouais,
voilà.
on
Mais
perd.
moi, j'y crois beaucoup. Je veux dire, en France, on a quand même la chance d'avoir un système de train qui est quand même très, très bien foutu. Je veux dire, toutes les entreprises parisiennes, Paris est très bien connecté. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui vit à Bordeaux, Marseille, Lyon, Nantes, Strasbourg, Lille, tout ça, il peut être à Paris en plus ou moins de 3 heures.
Bah
Donc
ouais.
je vois pas du tout l'inconvénient de effectivement domicilier les salariés là où est-ce qu'ils veulent et de se dire, OK, bah, je viens une fois par semaine à Paris pour voir toutes les équipes.
Dernière question, Benjamin. Est-ce que, au cours de tous les recrutements que vous avez faits, toute cette expérience que vous avez accumulée, est-ce que vous avez fait une belle rencontre professionnelle, vous savez, une espèce de coup de foudre? Parce que le recruteur, il est toujours aux avant-postes pour ça.
J'ai eu le cas il y a 2 mois. Et d'ailleurs, le recrutement, pour la petite anecdote, s'est terminé sur une plage à Alicante, où le candidat m'a appelé pour me dire qu'il allait signer donc, chez le client. Donc c'était très bien.
C'est vrai?
Alors, il faisait quand même 37 degrés, franchement. J'avais vraiment envie de partir de la plage parce que ça devenait beaucoup trop chaud. Et donc effectivement, ce candidat, ça a été une très belle rencontre professionnelle parce que c'est un candidat que je suivais depuis déjà, je pense, une bonne année. C'est un candidat que j'avais rencontré à Paris lors d'une conférence en recrutement. À ce moment-là, il était encore en France. Il s'apprêtait à partir en VIE en Belgique.
Ouais.
Et j'avais déjà trouvé son niveau de maturité sur la fonction recrutement alors qu'il n'avait que 2 ans d'expérience assez intéressante. Après, il a créé une newsletter qui fait assez référence là aujourd'hui dans l'écosystème, en tout cas francophone. C'est Sourceur, oui peut-être. Bah du coup, quand j'ai eu un rôle ouvert, je l'avais contacté. Il n'était pas encore dans des démarches de recherche très actives. On s'est suivi. Il y a un moment, ça a été le bon moment. Il m'a recontacté en me disant, Benjamin, là, je veux qu'on se parle maintenant parce que je vais partir. Et on s'est appelé. Et effectivement, c'est une personne qui m'a beaucoup impressionné parce que c'est une personne qui a 3-4 ans d'expérience en recrutement, mais que je conseille. Et c'est pourquoi il faut vraiment pas se fier au nombre d'expérience. Parce que pour moi, il équivaut à des personnes avec qui parfois je parle qui en ont 10 ans.
Ah ouais.
C'est quelqu'un qui a une vraie passion, qui se documente énormément, qui apprend beaucoup en apprenant par exemple des nouveaux outils, des nouvelles façons de faire du recrutement, qui avait une approche très, comme on aime bien dire maintenant, data-driven. Donc qui essaie vraiment de monitorer son activité recrutement
Ouais.
avec des chiffres, de calculer ses taux de conversion par exemple entre un message envoyé et sa réponse. Et oui, c'est un candidat qui m'a énormément bluffé.
Bon, on est obligé de s'arrêter parce que ça pourrait durer encore des heures. Merci infiniment pour cet échange.
Merci
Et puis,
beaucoup.
bon, ben, bon séjour et bon travail.
Merci. À bientôt.